C'est très difficile. Peut-être en allemand c'est plus facile, en anglais c'est plus facile. En espagnol c'était très facile. Vous vous rappelez, hein? Mais en français c'est très difficile. Bien. Par exemple, chaque fois que à l'école à Jérusalem, les élèves arrivent tout fiers avec leur rachis en français, je suis obligé de leur mettre ça sous clé. Parce que on ne peut pas travailler, on peut pas apprendre avec ça. C'est clair, vous avez dû en avoir l'expérience. Et alors donc, traduire la Torah dans telle ou telle langue, c'est faire apparaître chacun de ces 70 visages de la Torah correspondant au génie culturel de chaque société. Mais seul Moïse peut le faire. Be'er et Torah, Zot Be'shivim Lashon. Celui qui a le Lashon HaKodesh peut traduire. Je vais vous donner un exemple. J'ai lu dans l'Arche de cette semaine une lettre de Henri Cazel. Vous connaissez Henri Cazel, qui est le professeur de Bible à l'Institut catholique, un homme que je connais depuis une trentaine d'années, un homme très respectable. Et je vous invite à, pas pour lire l'Arche, mais après tout, pourquoi pas, oui. D'ailleurs, c'est symbolique comme nom, l'Arche des Noyers. Mais de lire pour que vous voyez un peu qu'est-ce que ça peut être de l'antisémitisme subtil, comme nous disions hier soir. Un des numéros de l'Arche, on est en plein dans le sujet, a fait paraître un interview du comte de Paris, bien, dans lequel, censément d'après la lettre de Cazel, le comte de Paris dénonçait l'antisémitisme chrétien. Et Henri Cazel a réagi par une lettre en disant il ne faut pas exagérer, celui qui connaît vraiment l'histoire de l'antisémitisme, ça, sait que ceux qui ont été les moins antisémites, c'est ceux qui sont assis au Saint-Siège. Bon. Et il dit ça comme ça à peu près. C'est complètement faux. Mais enfin, il y a cette réaction. Ça m'a rappelé une conversation que j'ai eue avec Cazel il y a très très longtemps, lorsque me disait très clairement ceci. Et lui, c'est un grand professeur, le grand professeur de l'Institut catholique de l'Ancien Testament communiste. Disant ceci, après tout, c'est pas les rabbins qui diffusent la Bible dans le monde, c'est nous, les prêtres catholiques. Alors c'est là que nous avons discuté de ce problème. Je dis, écoutez, expliquez-moi comment vous, qui avez comme langage de la vie intérieure, à la rigueur, le latin, le grec, mais pas l'hébreu, votre hébreu, c'est du latin de cuisine. Vous savez, quand j'entends Henri Cazel citer un verset en hébreu, d'abord j'ai envie de rire, et après de pleurer. Mais c'est vraiment de l'hébreu de cuisine, je ne sais pas comment on dit ça. Vaïda prononce mieux, je ne sais pas comment on dit. Et alors, comment vous pouvez penser restituer authentiquement ce que la Bible des Hébreux dit pour les Français, okay, ou pour les... Il n'arrive pas à comprendre, mais c'est un problème grave. C'est un problème grave, surtout, j'en profite de le dire en morale pratique, si j'ose dire, pour les Juifs dont l'hébreu n'est pas encore la langue de la vie intérieure et qui font des traductions de l'hébreu en français et qui y mettent et qui y projettent, bien entendu, des associations d'idées, des connotations, des implications radicalement étrangères. Je pense que c'est clair et important. Bien, revenons donc à notre problème, c'est ça, les Shibim Panim la Torah. Mais nous avons perdu ça. Enfin, nous avons perdu. Pas tout le monde a perdu. Mais qui dispose de ces Shibim Panim la Torah? C'est pourquoi une minute? C'est pourquoi on a utilisé cette expression à la longue, dans un sens populaire qui n'est pas étymologique. Quelqu'un dit une explication. Bon, l'autre, gentiment, courtoisement, ne veut pas contredire. Alors il dit, pour faire la paix, Shibim Panim la Torah. Tu as pensé comme tu as pensé, je penserai comme je pense. Mais ce n'était pas ça, vous avez compris? Pas ça originellement. Il y a vraiment Shibim Panim la Torah, mais je n'ai pas fini de répondre à la question de mademoiselle. D'autre part, ça c'est un premier thème. Et un deuxième thème, à l'échelle individuelle, en Israël, chaque âme d'Israël a son visage de la Torah. Et qui n'est qu'à lui, son chidouche. Ce que la Torah dit, pour lui en particulier. Vous comprenez le problème? Et c'est indiqué de la manière suivante. Il y a 600 000 lettres dans la Torah, ne les comptez pas parce que vous ne trouverez pas 600 000. Mais il y a quand même, il faut savoir comment les compter. Mais, il y a 600 000 lettres dans la Torah et il y a 600 000 âmes en Israël, âmes de base, disons. Et donc chaque Neshama a une lettre, une lettre à elle. Chacun a son verset, chacun a son aspect, son chidouche de la Torah. Ce sont les 600 000 lectures de base tout authentiques. C'est clair. Comme il y a quatre niveau de lecture, le pshat, le remez, le drash, le sod. Alors 600 000 par 4, ça fait 2 400 000 lectures de base vraies de chaque verset, à chaque moment de la journée. Alors multiplié par le temps, et c'est ça l'infini de la lecture de la Torah. Bien. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Au même sujet, je vais parler de la Torah. La Torah est écrite en hébreu. C'est plus tard qu'elle a été traduite aux autres nations,
oui.
Aux langues différentes.
Oui.
Comment on peut expliquer à notre temps aussi longtemps que la Torah a pu être capable de s'exprimer en 70
langues
de façon pour être compris dans tous. D'abord, un, d'être compris par les autres nations. Deux, d'être reçu une visa, d'être reçu de façon que ça aurait été adopté avec leur coutume, avec leur...
Attendez.
D'être
reçu, en tout cas, à l'échelle individuelle, par tous les guérims qui sont venus de toutes les nations. Oui. Donc, c'est qu'ils ont entendu quelque chose. Okay.
Non, eh bien, c'est... Oui. Transmise au
oui.
Par les langues.
Très bien, très bien. Voilà. Et vous êtes sur un problème très important avec une entreprise très périlleuse.
Et je pose une question parce que c'est très important pour moi, pour le savoir, concernant le monde
d'aujourd'hui,
le
Hasman moderne. Est-ce que je peux vous demander quelle est votre profession? Si c'est indiscret, c'est pas la peine.
C'est surtout.
Oui. Eh bien, écoutez, c'est la manière la plus totale de dire que la Torah est universelle, qu'il s'agit de la révélation du Dieu unique, le créateur de tous les univers. Notre Dieu unique, c'est pas un Dieu tribal qui a fondé une religion de la tribu des Bédouins, lui. C'est le créateur du monde. Et par conséquent, sa parole est universelle. Donc elle a, par définition, une dimension de vérité concernant tout aspect de la réalité humaine. Tous les hommes sont des hommes. Donc la Torah leur parle aussi à travers Israël. Comme j'ai dit, je crois que c'est la chose la plus importante à comprendre. Que, oui, cette orthodoxie que je formule n'est pas du tout chauviniste, comme vous comprenez. Okay, c'est pas l'orthodoxie des chapelles, des ghettos, des... C'est le clan Israël et le relais entre la parole du Dieu unique et toute sa création. Avec le temps, nous nous sommes repliés sur nous-mêmes et nous n'avons jamais, depuis des siècles, parlé cet aspect de la Torah correspondant à chaque génie culturel. Ça a été fait dans certaines époques. Pourquoi? Parce que notre ghetto est devenu hermétique. On nous a vraiment tellement enfermés dans les ghettos qu'il n'y a plus eu de communication. Il y a une sorte de trahison des intellectuels juifs qui, sortant des ghettos, au lieu de porter la parole hébraïque dans le visage culturel de la société où ils étaient, ont fait l'inverse. Ont projeté les catégories de la société à laquelle ils se sont assimilés dans leur Torah. Il y a assez dangereusement dans beaucoup de livres contemporains, surtout en Amérique, cette catastrophe-là. Au lieu de dire, de traduire dans le langage des nations la vérité du Lashon HaKodesh, on projette sur ce que la Bible hébraïque est censée dire la mentalité de l'Occident qu'on critique, par exemple. Vous voyez cette espèce de cercle vicieux. Je crois que la règle que je viens de vous citer est très importante. Il faut que Moïse, l'homme qui l'a reçu en Lashon HaKodesh, formule dans les 70 langues. Les Midrashim nous montrent que c'est le génie de Joseph. Joseph avait le don des langues. Vous vous rappelez de ça, ceux qui ont étudié le Midrash, hein? Joseph, c'est-à-dire l'homme de diaspora. Je crois que le Rakouk nous disait souvent, mais je l'ai expérimenté empiriquement. Les Juifs, en général, ont le don des langues. Mais il y a une communauté particulière où c'est vraiment inouï. C'est laquelle? Les Juifs russes, c'est extraordinaire. C'est vraiment Joseph. Ils arrivent à maîtriser. C'est connu. Bon, tous les Juifs sont assez à l'aise dans les langues, mais les Juifs russes, bon, il y a un cas en France que vous connaissez, qui est de grande stature, des Lévinas, qui maîtrisent un certain nombre de langues de manière sensationnelle. On a presque la tentation d'apprendre le russe pour l'entendre parler russe. Bon,
il est russe.
Il est russe. Lituanien. Lituanien. Donc, l'Italie. Alors, revenons à notre problème. Et je crois que l'humanité attend cela. L'humanité attend cela. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Mais alors, dites-nous la vérité. Ne nous dites pas des choses relatées. Vous voyez à peu près le problème. Mais je crois que là, il y a quelque chose de grave. C'est pourquoi je vous ai cité Cazel. Il y a eu une frelatation, si vous voulez, de la diffusion de la parole biblique à travers le phénomène institut catholique, le phénomène... Vous comprenez ce que je veux dire ? Je me souviens d'une phrase qui a été citée par Yaakov Herzog, qui était le frère de Chaim Herzog. Il a eu une fois un dialogue avec Toynbee en Amérique, et Toynbee a dit avec beaucoup... Toynbee est un... Je crois qu'il est mort.
Oui,
était un, donc un philosophe, un historiosophe, je sais pas comment on dit cela, philosophe de l'histoire, très anti-juif d'ailleurs, mais qui a eu une fois une parole, un aveu de vérité, dit après tout, le monde n'a encore jamais entendu la Bible des Hébreux. Il a entendu la Bible par les chrétiens, ou à travers le Coran par les musulmans, mais il n'a jamais entendu la Bible des Hébreux. C'est ça la situation actuelle. Je dirais, si vous voulez, de façon plus simple, la Bible juive. Alors, voilà en tout cas, Ken, vous me permettez, non, je vous ai terminé, permettez sur ces questions une anticipation sur le verset. Prenez déjà le troisième verset. Le Reach Shemanecha Tovim, Shemen Turak Shemecha, Alken Alamot Aherucha. Ken, alors je vais anticiper sur l'explication du Gaon là-dessus pour terminer de répondre à cette question. Voilà ce que dit le verset. Le Reach, en ce qui concerne le parfum, tes huiles sont bonnes. Les Reach Shemanecha Tovim. Qu'est-ce que c'est ? Bon, chaque corps a ses odeurs, chaque corps a sa transpiration, ses huiles, je ne sais pas comment dire. Et voilà comment continue cette confidence de la bien-aimée à son bien-aimé. Moi, je sais pourquoi je peux parler, par où dire, mais je peux parler aux autres de ce que tu es. Parce que tes huiles, que je suis seul à respirer intimement, ont un parfum qui va très loin. Les Reach Shemanecha Tovim. Shemen Turak Shemecha. Ton nom, lorsqu'on parle de toi, c'est comme une huile qui se transvase, Turak, qui va de vase en vase. Alken Alamot Aevucha, et c'est pourquoi les jeunes femmes, les autres femmes t'aiment, les autres femmes, c'est les autres nations. Et Rabbi Akiva dit Alken Alamot Aevucha, on verra si on a le temps dans le texte du Midrash, sinon je vous le cite déjà. Alken Alamot Aevucha, Rabbi Akiva a deux explications. Et c'est pourquoi les femmes t'aiment, c'est Elou Baalei Tshuva, les repentis, les Baalei Tshuva reviennent de loin. Pourquoi ? Parce que le parfum de ton huile porte très loin. L'huile, ils ne connaissent pas, mais il y a un parfum tel, ce que je dis comme ça un peu, par oui dire, Shamarti Shim'acha Yareti. J'ai entendu parler de toi. On entend parler de toi partout, alors que tu n'as parlé qu'à nous, mais on entend parler de toi partout, parce que c'est comme huile parfumée. Il n'y a que celui qui peut avoir l'huile à sa disposition, qui en profite vraiment, mais le parfum de l'huile va partout. Vous comprenez l'idée ? C'est-à-dire que, je vais citer comment Barthénora a utilisé ce deuxième enseignement d'Abbé Kiva, Alkena la Moussa Ebucha, c'est le guérir. Comment se fait-il que des nations viennent en Israël, les guérir, ce qui est un phénomène à expliquer autant, peut-être, qui est un phénomène plus à expliquer que le phénomène de l'assimilation des juifs aux cultures étrangères. Que l'identité juive soit donnée à la tentation d'assimilation, c'est normal, il n'y a pas de mystère. Hein. Le congrès, je veux dire, au niveau des conditionnements de la réalité, la situation du juif dans l'histoire est telle qu'il est donné normalement à l'assimilation. Mais le phénomène inverse est à expliquer comment se fait-il que des goïms viennent au judaïsme. Quand je lui quitte le judaïsme, je comprends. Hein. C'est le grand danger de cette solitude de l'exil dont on a parlé hier soir. La terreur de Jacob, lorsqu'il s'aperçoit, ça recommence. Il faut retourner en exil. Où est Joseph ? Qu'est-ce que je vais faire de Benjamin ? Le Karaou Hasson. Vous voyez le problème. Mais l'inverse, alors c'est ça qui nous est expliqué ici. Il y a dans l'intimité Dieu et Israël un parfum qui se dégage. Et ce parfum va partout. Alors Rabbi Akiva nous dit, et ça c'est à la mode, ces autres femmes qui t'aiment, c'est le Baalei Tshuva, c'est le guérir. Vous avez compris comment est utilisé dans la forme du Midrash, la forme du verset. Et le Barthénora a utilisé cet enseignement. Barthénora, c'est un des principaux commentateurs de la Mishnah. À propos du Mishnah de Pirkei Avot, sur Yehi Betecha Betva Lachachamim. Que ta maison soit une maison où les sages peuvent se rencontrer. Et c'est une Mishnah qui donne des consignes pour pouvoir étudier la Torah pour celui qui n'est pas capable d'avoir la relation directe de disciple à maître. Bon, c'est pas le sujet, il faudrait l'analyser dans, en détail. La consigne d'étudier la Torah, ça veut dire fais-toi un maître, étudie avec lui. Il y a mille occurrences qui font que c'est pas possible. Alors, est-ce qu'on va rester sans Torah? Alors là, la Mishnah donne la consigne suivante. Que ta maison soit une maison de rendez-vous possible pour les hachamim. Que ta maison soit telle que les hachamim puissent y donner rendez-vous pour y étudier. Les hachamim n'auront pas n'importe où. Alors, fais de ta maison une maison telle que les hachamim puissent s'y rencontrer. Yehi betecha betvarad la hachamim. Et c'est pas facile à faire de sa maison une maison telle que les hachamim aiment à s'y donner rendez-vous. Bon, on se verra chez un tel. C'est clair? Vous voulez que je vous dise? Et alors, celui qui ne peut pas avoir la relation directe avec la Torah du Rav va avoir ce privilège que les hachamim étudient la Torah chez lui. Et il va assister et profiter du parfum qui se dégage de cette Torah. L'huile, il ne peut pas l'avoir, mais le parfum, il pourra l'avoir. Vous voyez, vous avez compris comment on va maintenant l'étudier, mais de la façon précise suivante. Il dit, on ne peut pas se passer d'huile parfumée, mais il faut avoir de quoi l'acheter, l'huile parfumée. Alors celui qui a de quoi l'acheter, va chez le parfumeur et achète de l'huile parfumée. On dirait aujourd'hui l'autre colonne. Et puis, celui qui ne peut pas, alors il va chez le parfumeur. Il attend que quelqu'un qui peut puisse acheter, et quand le parfumeur transvase d'un vase à l'autre, il profite du parfum. C'est ça, Shemen Tourak, une huile transvasée. Vous voyez comment Barthénora a précisé l'enseignement. C'est-à-dire, la sagesse passe des grosses têtes à grosses têtes, et puis on profite du parfum. Et ne croyez pas que c'est rien. C'est un privilège extraordinaire d'entendre les hachamim étudier entre eux. Ça, c'est un niveau de Torah, c'est clair, auquel seul le Baal HaBayit, qui a pu faire de sa maison une maison suffisamment cachère pour que les hachamim s'y donnent rendez-vous, peut profiter de cela. Ça y est, c'est clair? Donc, quelqu'un veut le voir?
Je voulais savoir si, peut-être l'autre, la proposition vient d'une ingénierie culturelle.
Je dirais d'abord deux choses. D'abord, il s'agit préalablement du génie culturel hébraïque. Il y a un génie, mais j'en ai culturel. Il y a un génie hébraïque tout court, comme il y a un génie propre à chaque nation. Okay? Et le génie juif est indéniable, et il est l'héritier du génie hébraïque. C'est un des avatars, le mot est mal employé, c'est une des péripéties du génie hébraïque. C'est le génie hébraïque, moins la prophétie, le génie juif.
Parce qu'à ce moment-là, effectivement, dans les phénomènes de génie culturel, ça veut dire culte, enfin, ça concerne le mot culte, qui renvoie à une hiérarchie. Effectivement, les catégories culturelles ne sauraient rendre compte de quelque chose qui est en dehors des nouvelles cultures.
Je crois que la grande caractéristique de ce que nous appellerions là le génie ou le génie culturel de l'identité hébraïque, c'est la primauté de la moralité. Et toute la culture, entre guillemets, hébraïque est orientée sur cet axe. Et
la moralité, en tout cas, est en dehors de tout.
Oui, d'accord, mais...
C'est même la première moralité.
Attendez, vous allez dire plus clairement quelle est la question qui sous-tend votre question, parce que je suppose que vous pensez à autre chose que vous ne dites pas. Mais vous allez nous le dire. Je veux dire qu'il y a un cas particulier du génie hébreu, c'est cette primauté à la moralité. Et c'est ça qui a fait la culture hébraïque, la culture juive, qui en est l'héritière. C'est un sujet pour lui-même. Mais qu'est-ce que vous lui demandez? Qu'il y a un risque d'auto-idolâtrie du génie juif s'idolâtrant lui-même?
Savoir
s'il existait un génie culturel, est-ce qu'il y a la notion
de génie culturel dans le contexte hébreu,
mais
je ne sais pas, parce que là, ça dépendait justement de ce que vous disiez par rapport au génie culturel des sanctuaires.
Écoutez, l'identité hébraïque n'est pas une forme vide.
Non, parce que c'est une parole. C'est pas, ça peut être un génie culturel,
puisque la parole. Donnez-moi un exemple concret. Quand vous parlez de génie culturel, à quoi vous pensez? Quand vous parlez de génie culturel, à quoi vous pensez? Donnez-moi une illustration.
À tout le système théologique.
Non, c'est ça, vous appelez la culture. Écoutez, je dirais un peu ceci. Il y a une différence entre le temps des Hébreux et le temps des Juifs. Au temps des Hébreux, la manière d'être hébraïque est elle-même un point. Un Hébreu, c'est un Hébreu. le génie juif est quelque chose de plus nuancé que le génie hébraïque. Le génie juif est un génie mixte. Il a toujours été judéo quelqu'un d'autre. Mais bon, c'est important de voir la différence. Le judéo, c'est ce qui reste de l'hébreu, mais le juif comme tel n'est pas que hébreu. Le juif est toujours hébreu quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est clair ce que je dis ? Par exemple, nous avons été judéo-espagnol, judéo-portugais, il n'y a pas juif-juif. Même depuis l'origine de l'identité juive, c'était judéo-iranien à l'époque, enfin, persan. Okay. C'était la première communauté, la Suérus de Esther, la première communauté juive, mais elle était d'emblée de génie culturel judéo-persan. Okay. Babel. Oui, attendez, je voudrais terminer ça et vous poser votre question. C'est important de le comprendre. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que le juif apporte dans cette mixité ? Et à la limite, si vous voulez, Israël sera vu comme judéo l'humanité entière. Mais il y a même, à mon sens, deux choses. Prenons par exemple le cas de la musique, qui est un cas que, en tout cas moi, empiriquement, j'ai beaucoup expérimenté. Tant la musique juive Sfarad que la musique juive Ashkenaz, dans ses différentes ramifications. Le fond mélodique vient des cultures où nous avons vécu. Mais le fait, le gosier juif, si j'ose dire, la voix juive, il met quelque chose d'autre. Par exemple, il y a de très belles mélodies chassidiques dont le fond mélodique est tzigan. Okay? Mais « Hatzigani mezamer »« Yehudi mezamzem »« Zemachem acher » Vous comprenez, quand le juif va chanter cette mélodie, tzigan, il y a quelque chose d'autre qui apparaît. En général, il suffit d'une fausse note et ça fait juif. Mais, j'ai essayé de réfléchir à cela. Je voulais deux dimensions, en tout cas parmi d'autres possibles. Il y a d'abord un aspect de sanctification. La mélodie goy peut avoir une harmonique de sacré, mais pas de sainteté. Et je choisis mes mots, vous voyez. Il peut y avoir la musique sacrée, mais sainte, kadosh. Il y a une espèce de sanctification. Enfin, ma musique ancestrale, enfin celle de mon enfance, c'est la musique andalouse nord-africaine. Eh bien, c'est de la musique arabe, d'Espagne, il n'y a pas de doute, venue de l'Inde par les Arabes. D'ailleurs, le fond est hindou, mais venue par les Arabes. Mais quand c'est un goy qui chante cela, et quand c'est un juif qui chante cela, il y a quelque chose d'autre, un tzlil, comme on dit, un harmonique différent. C'est quoi ? Là où il y a du sacré chez le goy, mais ça peut être très hiératique et colossal, il y a de la sainteté, mais c'est un formulaire où on expérimente, D'autre part, une deuxième dimension qui est que les valeurs chez les goïmes sont, je parle toujours de cette identité mixte, je veux dire, c'est très simple. Ceux qui ont expérience de cela, savent très bien. Il suffit d'ouvrir le bouton de radio. À la troisième note, on sait si c'est un juif ou un arabe qui chante, si c'est un juif ou un russe qui chante la même mélodie. Eh bien, ça dépend. S'ils sont de la même communauté, alors c'est le style familial. S'ils sont de deux communautés différentes, la différence vient de la bohème. C'est pas plus compliqué que ça. Non, mais je continue. La première dimension, c'est je crois qu'il y a une sanctification. Vous savez, les chassidim ont beaucoup parlé de cela à propos de la musique. C'est que, vous connaissez peut-être cet enseignement qui est que les grands tzadikim de chassidim ont chacun ce qu'on appelle leur nigun, leur air. Et le très beau nigun, les plus beaux sont ceux qu'on entend dans les yeshivot quand les enfants apprennent en chantant. Alors, il y a un chant du nefesh qui apparaît, qui est vraiment extraordinaire. Un jour, je vous apporterai une cassette, peut-être, pour vous faire entendre dans différents yeshivot de Sfarad comme Ashkenaz, le chant de l'étude, c'est les plus belles mélodies sortent de là. Mais le nigun du chassid, il allait dans les parcs des châteaux des goyim, du seigneur féodal de tel ou tel pays, lorsqu'il y avait les grandes fêtes des orgies féodales, et il entendait les airs de danse, et puis en lui ça se sanctifiait, et puis le nigun sortait comme ça. Vous avez compris ? C'est un air goy humain, mais sanctifié. Et je crois que la seule explication que je pourrais donner, c'est qu'ils font ensemble la différence sacrée et saint. Vous voyez, musique sacrée, même déjà synagogale, c'est du sacré. Alors qu'il y a la sainteté dans le chant juif. Et je m'en vais. Ça va se passer.
Alors, nous abordons tout de suite la lecture du Gaon.
S'il y a des questions de fond, laissez-les pour dimanche après-midi. S'il y a des questions d'éclaircissement d'un mot, ça oui, il faut les poser tout de suite.
Clair.
Bon. Alors, nous étions donc arrivés à cette mise en évidence de deux niveaux de la révélation, donc deux niveaux de la rencontre. Celle qui s'est faite vraiment face à face, littéralement bouche à bouche, au Sinaï, c'est au niveau des deux premiers commandements de Aseret HaDibrot, et le reste, c'était l'expression qu'a cité le Gaon de Vilna, Shimim Panim la Torah. C'est-à-dire avec révélation, avec porte-parole. La relation établie dans le commentaire du Gaon, c'est le Yaïm de la fin du verset. Chacun est mis chez Kotim, qui peut venir de femme Yaïm. Yaïm renvoie à la connaissance médiate et en se basant formellement sur l'équivalence des 70 chez Vin Panim la Torah, qui est la numérique du mot Yaïm. Alors le Gaon veut nous montrer que ce n'est pas par hasard que le Midrash a mis en évidence le cas particulier des deux premiers commandements, où vraiment la rencontre, la relation a été directe, concrète, et nous avons dit historique, alors que pour tout le reste de la relation entre Dieu et l'homme, il y a médiation. Soit l'allée de l'homme vers Dieu, et c'est une ligne, soit l'allée de Dieu vers l'homme, c'est une autre ligne, mais qu'il n'y a pas rencontre. Vous remarquez par vous-même, ceux qui ont assisté hier à l'excellent exposé de Rossi sur Eschel et Rav Soloveitchik, on peut ne pas être d'accord avec les thèses soit de Rav Yoshua Eschel, soit de Rav Soloveitchik, mais avec la problématique de Rossi, on ne peut pas ne pas être d'accord. C'est la préoccupation contemporaine de cette expérience existentielle de la solitude du croyant. Elle m'est personnellement complètement étrangère, je répète à m'en expliquer dimanche après-midi. Je pense que vous avez ressenti qu'il y avait quelque chose d'un peu étranger, je ne sais pas comment dire. J'essaie de poser la question par Kierkegaard, mais je n'ai pas voulu prendre la balle pour vous. Donc, voilà, dimanche après-midi, nous redialoguerons. Eh bien, c'est cela, vous voyez, ça peut nous aider à le mieux comprendre. On est soit dans une des dimensions, et on se demande pourquoi il n'y a pas réponse. Soit dans l'autre, et on se demande pourquoi il n'y a pas réponse. C'est qu'en fait, l'événement privilégié de la rencontre PLP, où il y a réponse, où il y a ce que l'on cherche, a été un événement historique particulier, singulier. Et vous voyez, la convergence des sources traditionnelles de privilégier cela. De différentes manières, les grands théologiens se sont toujours référés à cela. Maïmonide, pour sa part, et dans son style, surtout Judas Lévi pour le sien et dans son style, c'est que celui qui oublie l'événement du Sinaï, celui qui n'est plus relié, chez vous, menoutak, comme on dit en hébreu, menoutak, ça veut dire déconnecté de ce qui s'est passé au Sinaï, restera en plein désarroi, sa quête de Dieu, comme disent les théologiens, si vous voulez, eh bien, c'est surtout une quête philosophique, même mystique, mais ce n'est pas la religion dont parle la Bible, c'est-à-dire le lien dans la réalité historique de ce qu'il y a eu vraiment, réellement. Je ne vais pas revenir sur les analyses précédentes d'hier, d'avant-hier, du jour précédent, nous avons surtout parlé de cela. Donc, le Gaon va nous aider à comprendre que cette nostalgie, en même temps espérance, qui est formulée dans la première partie du verset, Ishakeni Mineshikutpim, voilà le désir de la communauté d'Israël, se réfère à un événement qui a eu lieu et qui a déjà été expérimenté. Et alors ça, elle le dit en aparté de elle à lui, Kitonim Dodecham Yahim, ça tu sais que je le sais, je sais que tu sais que je le sais, les autres ne peuvent pas comprendre encore, puisque cet événement était qu'entre nous, mais voilà de quoi il s'agit lorsque je leur dis qu'elle est ma fille, Ishakeni Mineshikutpim. Tout de suite, le Midrash, et le Gaon va dans ce sens, va non pas intérioriser, non pas sublimer, non pas...